Yo, I'm a Nick.
Starts. Yes. What a move by Scott. Ewing with the spin. Ewing, yes. What a 10 seconds remaining. The Knicks lead by one.
Out of Houston. Houston ducks under. Got it.
Johnson cuts left. Now fires a three. It is good. And he's fouled. It counts. And he is fouled.
Anthony for three. Puts it in.
Hope you're ready for the next episode. Hey!
Et parce qu'il faut toujours entretenir l'espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. Notre équipe est de retour pour ce volet numéro 4 de notre podcast The Knicks épisode. Bonsoir Julien.
Salut les gars.
Bonsoir Johnny.
Bonne année!
Bonne année. Bonne année à tous. Meilleurs vœux, santé. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour cette année. Donc, dans ce quatrième épisode, nous allons aborder les sujets suivants. Un petit tour de table de l'équipe concernant notre billet d'humeur, hein, notre avis sur la performance des Knicks. Nous allons évoquer également le départ de David Fizdale ainsi que l'arrivée de Mike Miller. Le résultat que cela donne dans le jeu, l'impact. Et enfin, évoquer la trade deadline et l'évocation des rumeurs. Et enfin, nous allons aborder l'actualité de notre association. Voilà, messieurs. Donc, déjà, c'est un plaisir de vous retrouver.
Plaisir partagé.
Oh oui, ça fait longtemps. Mais on est là, on est toujours là. Il y a eu les fêtes, les grèves. On a été quand même pas mal occupés sur la fin d'année. Et on a laissé tranquillement les Knicks jouer. Maintenant, il va falloir qu'on débriefe un petit peu tout ça.
Donc effectivement, il est l'heure pour nous de faire un peu le bilan, voir un peu comment ça se passe, comment on entame cette année 2020, alors sur de bons auspices, des auspices un peu moyens à voir, à évoquer. On fera un petit tour de table. Bon, on va commencer déjà par Juju, voir un peu ce que tu en penses de ce début de saison.
Là on arrive pratiquement, on est à la moitié de saison maintenant du coup. Bilan mitigé. On a eu quelques bonnes nouvelles avant les fêtes avec le départ de notre grand ami Fizdale. Les Knicks ont arrêté le carnage et ont pris la bonne décision pour moi de le couper. Même si on avait le sentiment que soi-disant les joueurs étaient à fond derrière Fizdale. On a quand même vu, on va certainement développer un peu plus après, mais on a quand même vu le premier effet. L'équipe tourne quand même mieux. Alors, c'est bien sûr, on a un bilan de 12-32 aujourd'hui, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais quand tu regardes les matchs, c'est quand même autre chose qui est proposé par les Knicks depuis l'apport de. Enfin, c'est pas vraiment un apport parce qu'il était déjà là, Mike Miller, mais depuis qu'il a pris le pouvoir en tant que head coach, l'équipe tourne mieux et est beaucoup plus cohérente. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, au niveau des joueurs, petite déception sur les derniers matchs, on va dire. Enfin, pas vraiment les derniers matchs, mais un peu avant de R.J. Barrett, qui a eu un gros coup de boue. Depuis le précédent podcast qu'on a fait, on a vu un petit Barrett, en délicatesse avec son shoot, ça toujours. Mais même, on le sentait en dedans. On en avait déjà parlé, je crois, avec Johnny. On le sentait un petit peu moins bien sur les derniers matchs.
Le fameux Rocky Wall. Hein. Ça arrive plus ou moins tôt dans la saison.
Voilà, depuis qu'il a mis son bandeau, c'était un petit peu mieux. Là, il est blessé, donc il s'est fait une petite entorse, cette mémoire.
Oui, c'est ça.
Barrett, semi-déception. Bon, je pense qu'il a encore un gros potentiel. Il est jeune, on va pas tirer dessus tout de suite. Il s'améliore au lancer franc et au shoot. Ça pouvait pas être pire. Hein. Franchement, ce qu'il faisait, c'était catastrophique. Mais bon, il y a une petite amélioration. Et puis, sinon, au niveau des joueurs, j'ai une petite satisfaction. Marcus Morris, même si c'est un gros croqueur, j'aime bien sa mentalité. Portis, hein, j'étais très, très inquiet sur lui. Et je le suis toujours. Ouais. Le mec, il te met des coups de coude, des coups de corde, la corde à linge en quatrième quart-temps. Il faut lui dire que c'est pas du catch. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est du touquet, mais il s'est trompé de jeu. C'est NBA, pas WWE.
Sacré Bobby, hein. Sacré Bobby. Ouais,
une belle introduction là. Tu es bien en forme là, Jules.
Alors moi, désolé, hein, je vais plomber l'ambiance. Il faut qu'on ait quand même une petite pensée, parce qu'il y a une personne qui nous a quitté en ce début d'année 2020. Malheureusement, c'est l'ancien commissionnaire David Stern. Donc, faut qu'on ait une petite pensée par rapport à lui. On est tous des fans, des supporters et des fans NBA, et c'est en partie grâce à ce monsieur Stern qui a favorisé l'expansion, la diffusion mondiale de ce sport, donc, et de ce basket NBA. Donc il faut qu'on ait une petite pensée pour lui. Bien sûr, l'histoire des Knicks, elle est peut-être aussi un peu redevable d'un rapprochement avec David Stern sur quelques années passées, au début des années 80. Donc voilà, une petite pensée par rapport à lui, il nous a quittés et c'était un événement marquant, malheureusement, en ce début du mois de janvier.
Effectivement, David Stern, c'était vraiment le personnage emblématique qui a su faire traverser la NBA de par le monde. Donc évidemment, toutes nos pensées vont vers lui et cet événement était vraiment un choc.
Pour la communauté basket et sportive au sens large.
De manière générale, ouais, évidemment.
Voilà, mais on va revenir à des sujets un petit peu plus joyeux et effectivement oui. Nos Knicks, parce que les Knicks, on s'ennuie jamais avec eux, en bien, exactement, en mal, il y a toujours des choses à dire, il se passe toujours des choses. Au revoir, monsieur Fizdel, merci pour tout, merci pour rien du tout. Merci pour rien du tout. On se rassure, il a retrouvé rapidement un travail de consultant, il va très bien, il se porte bien.
Ça, c'est un scandale, et ESPN, ils ont vraiment pas... C'est
une vraie... Ah là là, tu perds ton job. Envoie ta candidature à ESPN. Non, mais voilà. Bon, après, combien de temps il restera sur ESPN, j'avoue, je n'en sais rien. Et c'est pas bien grave, parce qu'on a d'autres chats à fouetter que Monsieur Fizdel. Mais on est soulagé parce que voilà, l'aventure Fizdel, elle a pas... C'est un flop. Hein. La saison dernière, c'était une saison de tanking. On ne pouvait pas vraiment juger sur ça. Par contre, sur ce qu'on a perçu de lui en début de saison, voilà, c'est beaucoup de communication. Et finalement, pas grand chose sur le terrain, donc on est soulagé d'avoir pu tourner la page. Les résultats des Knicks qui sont difficiles et en deçà de nos attentes, Monsieur Fizdel était en bonne partie responsable, mais pas que, les joueurs aussi. On n'a pas tout changé du jour au lendemain quand Mike Miller a pris l'intérim, mais voilà, il avait sa part de responsabilité et on est content d'avoir tourné la page.
Et non, puis après, moi je souligne aussi le contexte également. Le contexte de son départ, donc il faut savoir que ça se passe début décembre. Les Knicks essuient leur 8e défaite d'affilée face aux Nuggets au Madison Square Garden. Évidemment, un blowout, hein, 37 points d'écart. Donc.
Ouais, double blowout. Hein. On venait de prendre une bonne rouste face aux Bucks chez eux. Ouais. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, on était sur des adversaires qui étaient assez compétitif, hein, mais voilà, ça faisait les blowouts de trop, quoi. Voilà.
Ce qui a allumé la mèche, c'est la branlée qu'on a pris contre les Cavs à domicile, où là, on a senti que y avait le feu aux poudres entre guillemets et que c'était branle-bas de combat parce que déjà là, il était à deux doigts de gicler. La presse s'était enflammée, même Dolan, qui est pas très présent, était visiblement très remonté. Ça a été déjà, à mon avis, une défaite très très mal vécue en interne.
Ouais. Je ne sais plus sur quel match, justement, Steve Mills et Scott Perry ont fait une conférence. C'était contre Cleveland ?
Oui, petite conférence de crise, oui.
Improvisée. Bon, les gars, il faut qu'on s'excuse. On n'est pas content des résultats, mais on a confiance. Non, vous excusez pas si vous avez confiance. Donc voilà, il y a un peu un discours qui est un petit peu trouble de la part du front office. Eux-mêmes sont sur la sellette. Hein. Il y a de nombreuses rumeurs de licenciement en approche. Voilà, ça drague Masai Ujiri des Raptors. Bon, on verra quelle sera la suite. Pour l'instant, on est dans une situation un petit peu transitoire avec l'intérim. Il n'y a pas eu de communication officielle de la part du front office des Knicks depuis le départ de Fizdel, c'est aussi bien curieux, mais je pense qu'on ne l'aura pas hein, d'ailleurs, mais voilà, il se passe toujours des choses un peu étranges quand on parle des Knicks et de l'organisation. Mais on va revenir plus sur les terrains.
Oui, de toute façon, on va assurer déjà la transition. Donc, départ de Fizdel, 18e, comme je disais, 18e défaite de la saison, un bilan de 4 victoires, 18 défaites. Du coup, ça nous laisse un bilan plus que négatif. Bon, on va pas parler de la première année non plus, comme tu disais tout à l'heure, avec une année record, malheureusement pour nous, avec 17 victoires et 65 défaites. Donc, il y a tanking et tanking. Là, c'est
du tanking de luxe, hein. C'est du tanking de luxe.
Ouais, avec du panache. Hein. Voilà, donc du coup, Mike Miller qui prend le relais. Il prend le relais à l'heure où on vous parle, le bilan est de 12 victoires, 32 défaites. Donc, on passe de la 15e à la 13e place à l'Est. pour le bilan individuel concernant Mike Miller, bah, c'est 8 victoires et 14 défaites.
Bravo, bravo. Deux fois plus que Monsieur Fidel.
Bah, oui, c'est largement mieux.
Voilà, donc quelles sont vos sensations, vous, concernant le coach intérimaire qui est Mike Miller? Voilà, quels sont vos ressentis concernant ce qu'il a apporté à notre équipe?
Moi, le premier ressenti, c'est au niveau tout simplement de la rotation. Chez Fizdel, c'était quand même très, très flou, voire le bordel. Hein, il n'y avait aucune ligne directrice. Mike Miller, tu regardes les matchs, match après match, tu as un sac de départ qui se dégage. Tu as des rotations qui sont logiques. Bon, ils changent en cours de match, forcément, selon l'adversaire, mais tu as à peu près les mêmes rotations. J'ai l'impression que les joueurs savent un petit peu mieux quel va être leur rôle, ce qui est déjà important.
Le plan a l'air mieux défini vis-à-vis de la rotation des joueurs. Maintenant, on sait quel est le 5, on sait un peu qui sont les backups, à quel moment ça rentre. Donc voilà, c'est plus clair et plus net vis-à-vis des joueurs. Donc il y a certains joueurs qui en payent les frais. Hein. Il y a certains joueurs qui sont aux oubliettes, Alonso Trier, des fois Dodson. Désolé, hein, Laurent.
Ellington aussi, Ellington, on a bien compris que...
Ouais. Oui, alors il a été blessé, il est revenu, on ne sait pas trop. Enfin voilà, je pense que ça fait partie des joueurs qui risquent de nous dire au revoir prochainement. Là, mais voilà, en tout cas, il y a quand même des joueurs, un noyau qui montre du temps de jeu. Bien sûr, quand il y a des blessures, hein, ça s'ajuste, hein, mais ou les fautes. Mais...
Oui, ben justement, j'avais évoqué ça, quoi. On a eu pas mal de blessures en ce début de saison, on a eu pas mal de trous au niveau des joueurs sur lesquels on comptait s'appuyer. Bon, là, ça se stabilise un peu, même si on a encore quelques blessés récurrents. Je pense notamment à DSJ, hein, entre autres. Hein,
qui ça voilà. Qui ça? Il est toujours chez nous, lui, je sais plus.
Sincèrement, lui, je suis même pas sûr qu'il rentre encore dans les plans d'Enix. Je pense clairement qu'ils attendent une option pour le trade. S'il y a des équipes qui sont intéressées, merci
pour de nous envoyer
un mail. Hein. Mais non, clairement, je pense que lui, il est sur plus que sur le départ. Ils vont essayer de le fourguer pour pas grand-chose. Et c'est une déception monumentale. Parce qu'on va juste revenir vite fait dessus. On trade pour Porzingis, pas que pour DSJ. Mais en gros, il facilite clairement le trade à ce moment-là parce qu'on se dit, bon, on récupère quand même un joueur à fort potentiel et qui apporte quelque chose. Et cette année, c'est un zombie. Enfin, voilà, il a été blessé, il a eu des problèmes, mais ça reste un zombie le peu de fois où il était sur le terrain.
On a l'impression qu'il était hors de forme physique sur le terrain. Il a travaillé sur son shoot l'été. Bah, on n'a pas trop vu tout ça, hein, nous, sur le terrain. Donc, effectivement, Dennis Smith Jr., c'était le joueur majeur du trade. Il n'y avait pas que ça. Il y avait le cap space et les tours de draft. Mais au final, la licorne Porzingis, on va l'avoir tradé pour rien du tout. Hein, donc, que des tours de draft.
Pour des tours de draft.
C'est décevant. Un an quasiment après... cette annonce choc du départ de Porzingis, il ne reste plus grand-chose de cet échange.
Bon, après, moi, pour revenir quand même sur Mike Miller, il y a aussi le retour des joueurs. Hein. On a vu pas mal de joueurs qui sont exprimés sur le sujet. Il fait vraiment l'unanimité.
Le groupe a l'air tout de même soudé, même s'il y avait des rumeurs comme quoi les anciens aimaient bien Fizdel et que les jeunes avaient un peu plus du mal avec Fizdel. Mais en tout cas, le groupe n'a pas l'air de faire trop de vagues malgré les résultats qui ne sont pas très très bons. Il y a eu un petit coup de gueule de la part de Marcus Morris récemment. Là.
Oui.
Il a raison hein, de pousser un petit peu la voix parce que c'est d'une certaine façon un des leaders de l'équipe. Mais autrement, le groupe se montre relativement solidaire du coaching staff, que ce soit sous la période Fizdel comme sur la période Mike Miller. Il est plutôt loué pour ses qualités et il montre du sérieux tout de même. Quoi.
Oui, puis même, tu regardes un match, je te dis, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ces changements sont cohérents, t'es en cours de match, tu te dis pas, qu'est-ce qu'il voit déjà, il prend des temps morts, puis tu te dis pas, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Pourquoi il met ce joueur-là? Pourquoi il fait. Enfin, voilà, ces changements sont cohérents, c'est pas pour ça que tu gagnes. Enfin, tu gagnes un peu plus de matchs au pourcentage, mais c'est pas non plus transcendant. Mais au moins, tu te dis pas, voilà, il y a aussi l'effectif qu'on a, mais à moins, tu te dis pas, mais attends, les mecs, ils sont complètement à côté de la plaque. Fizdel, il a quand même mis RJ Barrett meneur, quoi. Enfin, voilà, quoi. À partir de là, tu te dis,
Il pouvait se taper un petit délire comme ça une fois par saison.
Le problème de Fizdel, c'est qu'en fait, il a pas fait de test à l'intersaison. T'as l'impression, lui, s'est dit non, moi, je vais faire tous mes tests pendant la saison régulière. Ouais, ouais. Et à chaque match, c'était un laboratoire. Sauf qu'à un moment donné, juste pour être cohérent, faut quand même avoir des bases et avoir un effectif qui est cohérent, quoi. Dans tes rotations, en tout cas.
Ouais, alors après, même au-delà des rotations dans le jeu, bon, le ballon, j'ai la sensation qu'il tourne quand même un peu mieux, même si on se retrouve encore avec certaines situations d'ISO. Hein. Bon, bah, on parle de Randle notamment. Hein. Enfin bon, bref, si vous voulez revenir, on reviendra un peu plus tard.
Et mais, Monsieur Maurice voilà. aussi, hein, Monsieur Maurice. Il est adepte de l'isolation. Donc,
et en défense, bah voilà, moi je constate qu'il y a quand même un peu moins de switch, un peu moins de défense un peu évasive. Un jeu plus simple, efficace. Bon, voilà.
Avec un effectif limité, mais voilà, il fait de son mieux, je serais à te dire, ce Mike Miller.
Non, après on constate véritablement un changement d'attitude, quoi. Donc, oui. Chez certains joueurs aussi. Ben, un déclic aussi, hein. Donc voilà, le départ de Fizdale, a vraiment mis un petit coup de pied un peu dans la fourmilière, et voilà. Donc.
Randle est meilleur quand même depuis que Fizdale est parti. Il y a quand même une progression.
Bon, il y a une série de 4-5 matchs là, à une trentaine de points, donc oui, on a retrouvé qu'il s'était retrouvé dans...
Il prend déjà moins la balle en meneur déjà, enfin. Il le fait encore quelques fois.
Ça lui arrive encore, ça le chatouille, ça le démange. Et...
Ça le chatouille, mais avec Fizdale, c'était tout le temps. On avait l'impression que c'était le meneur. Quoi. C'était LeBron sans le talent.
Alors, le truc pour le sauver un peu, Randle, c'est qu'effectivement, il y a moins de pertes de balles qu'en début de saison. Et je préfère à la rigueur qu'il ait des pourcentages un peu en baisse sur des risques qu'il prend au niveau des shoots que des balles perdues sur le fait qu'il cherche à remonter la balle en dribblant, à trop fixer. Bon, voilà, après, c'est.
Moi, sur Randle, je trouve qu'il a, même s'il y a du déchet encore, hein, on est d'accord, mais je trouve qu'il a un peu épuré son jeu, et je pense que ce qui l'a aidé, et notamment le fait de lâcher le ballon, c'est qu'il est un vrai meneur, hein, qu'il a un meneur à ses côtés en la présence d'Elfrid Payton. Parce que début de saison, c'était plutôt, et période Fizdale, c'était plutôt Franck qui était meneur, hein, donc oui, ok, Cocorico, Franck, on l'aime bien, il est français, mais bon, ça n'excuse pas tout. et j'avais l'impression que moi, l'alchimie, elle marchait moins bien entre Franck et Randle. Peut-être que Randle ne faisait pas confiance à Franck, on n'en sait rien. Mais du coup, il se sentait peut-être l'envie, le besoin de remonter cette fameuse balle, de se prendre pour un meneur. Là où maintenant, avec Payton, ça joue mieux ensemble. Ils se connaissent de la Nouvelle-Orléans. Donc, il a peut-être plus confiance en ce meneur-là. Et bah, il épure son jeu, il évite ces remontées de balles qui ne servent à rien, qui ralentissent le jeu et ces turnovers à répétition. Quoi.
Et bah, tu vois, pour aller dans ton sens, excuse-moi, j'aurais dit, mais pour aller dans ton sens, et on parlait des rotations tout à l'heure, bah, tu vois, le fait d'ajuster Franck
en backup,
on parle de deuxième équipe, quoi. Et ben, tu vois, il y a des tandems qui se créent, tu vois, la relation Milikina-Robin. Seul en deuxième équipe, elle est vraiment efficace. Et puis là, tu parlais à l'instant de la relation entre Payton et Randle. Bah voilà, c'est parti des ajustements au niveau des rotations qui fait que bah voilà, l'équipe est un peu plus équilibrée. Donc
les joueurs se trouvent mieux. Alors le tandem Ntilikina Robinson, bon, c'est à base d'alley-oop, hein, donc c'est spectaculaire, mais c'est avec un pourcentage un peu.
Oui, mais leur jeu, ils se trouvent bien en pick and roll, donc c'est, voilà.
Tout à fait, ouais.
Il y a un joueur qui, moi, m'a fait plaisir, entre guillemets, je le connaissais sans le connaître, et puis bon, c'est Reggie Bullock, parce qu'en plus, bon, on ne le paye pas hyper cher, il était blessé, après il y a eu un drame avec sa sœur et tout, et je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bien. Là, il est titulaire en l'absence de RG, c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on va lui demander. Mais bon, il tourne qu'à 35% à 3 points, mais il met souvent des shoots qui sont importants. Il croque pas spécialement, il se place bien. À mi-distance, il est propre aussi. Clairement, comparé à Ellington, qui avait à peu près le même rôle en début de saison, notamment dû à sa blessure, je trouve que le niveau est quand même largement différent. Pour moi, Bullock est vraiment au-dessus d'Ellington. Bah, d'ailleurs, il ne joue plus Ellington, hein, même s'il n'est pas blessé. De toute façon, il aura peu de temps. Mais Bullock, vraiment, est une belle surprise.
J'avoue que je ne me rappelle plus les contrats de Ellington et Bullock, mais le rapport qualité-prix est meilleur pour Reggie. Hein, donc,
Ah bah oui, clairement. Ouais. Ouais, clairement. Clairement. Et franchement, moi, Bullock, j'en attendais pas grand-chose, pour dire la vérité. Et là, le fait qu'il vienne, qu'il défende aussi. Donc, je trouve que... Ouais. Il impacte défensivement, il est dissuasif, il met ses 10 points par match, le gars. Il est solide aussi sur la ligne, ce qui n'est pas le cas du roster. Donc le mec au lancer franc, il tourne à 83% et ça soulage. Et voilà, donc non, une certaine stabilité. Alors après, effectivement, à 3 points, ça croque un petit peu, mais bon.
C'est la NBA moderne, hein, faut s'y faire. Tout le monde va prendre des tirs à 3 points maintenant. Donc,
C'est pas le sixième homme de l'année, mais je veux dire par là, voilà, le gars, il est vraiment impactant et fait partie également fait partie des acteurs majeurs des quelques victoires qu'on a pu récupérer dans cette fin d'année 2019, quoi. Donc non, vraiment positif depuis son retour, hein, je te rejoins totalement là-dessus. Hein.
Et alors Elfrid Payton, vous le trouvez comment?
Perso, mieux que Franck, mais c'est quand même pas un meneur titulaire pour moi. Alors on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas autre chose. Kadi Malen ou quoi que ce soit, c'est pour moi, bon, je sais qu'il y en a chez Linux qui l'aime bien, mais pour moi c'est une blague. Franck, on lui a laissé sa chance, mais pour moi ça sera jamais un titulaire. Payton, c'est pour moi un choix par défaut. Il fait mieux tourner l'équipe que les autres, il n'y a personne d'autre, mais ça reste pour moi un meneur assez faible quand même.
Moi je trouve qu'il livre des prestations assez propres, c'est bien ouais. Mais pas top, c'est pas du calibre All-Star, loin de là. Il fait le travail, ouais. Il fait le travail mieux que Franck, voilà, avec ses atouts. Niveau défensif, il est honnête. Mais moi je le trouve plutôt, voilà, je suis plus serein quand c'est Payton qui est sur le terrain parce qu'il y a moins de pertes de balles, de boulettes, de mauvais espaces que Franck.
Ça manque un petit peu de solutions offensives, c'est-à-dire de lui je trouve qu'il voilà, il a pas de shoot vraiment fiable et il hésite encore un peu. Il distribue mieux le jeu, ses passes sont cohérentes, sa vision de jeu est correcte. Maintenant, je le trouve encore un petit peu tendre. Voilà, ça c'est mon avis.
Alors après, il n'est pas facilité par ses blessures non plus. Hein. Donc le gars, il a eu pas mal de successions au niveau des blessures. Oui, alors il n'y a pas effectivement un shoot totalement fiable, notamment aussi.
Mais il peut planter à 3 quand même. Hein.
Il peut planter à 3.
Il peut driver vers le panier.
C'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser constamment ouvert à l'image d'un Ilikina, hein, par exemple. Hein. Il est capable de pénétrer, d'apporter ses quelques points. Et puis, à la distribution, ouais, il fait bien tourner l'équipe. Quoi.
Pour moi, c'est clairement au-dessus de Franck. Mais si on veut... Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ça reste un poste 1 très moyen. Et pour une équipe NBA, Payton titulaire...
Ouais.
Si tu regardes les autres équipes NBA, tout simplement, Payton titulaire, je trouve qu'on a un des meneurs les plus faibles de la Ligue. C'est tout. Enfin, c'est pas méchant contre lui, ça reste un joueur NBA, il a des qualités, il est capable de faire des choses, mais quand même, surtout que le poste 1 ces dernières années, c'est un des postes les plus fournis en talent dans la Ligue. Mmh. Bah, je suis désolé, Payton, c'est quand même pas extraordinaire au niveau talent. Hein. Enfin, voilà. Après, on savait très bien en le signant, mais c'est quand même vraiment pas terrible.
Et c'est correct, correct mais sans plus.
Voilà, le plan d'Enix pour moi c'était pas ça, c'était DSG, il pensait que ce gars avait un potentiel, qu'il allait être fort ou quoi que ce soit, il est à la cave, donc tu te retrouves avec Payton qui pour moi dans leur plan était le plan B, et certainement Franck le plan C, bah tu te retrouves avec le B en A et le C en B, enfin voilà, et c'est plus compliqué que prévu à mon avis.
Bon après il a signé quoi, c'est pour un an, donc quelle sera la suite de ce Elfrid Payton Onyx, bon... Bien malin ce qu'il peut le dire aujourd'hui, quoi.
Bah, ça va être le fruit de la flexibilité, hein, de l'année prochaine.
Bon, il y a peut-être il y a Moudier qui va être disponible. Je crois qu'il a 40
ans. Moudier. Non, Moudier, il s'épanouit dans les montagnes. À Denver, ça allait encore. Dans le à Salt Lake City, c'est pas mal. Donc laissons-le à la montagne. Il est très bien là-bas.
Ouais. La montagne, ça vous gagne. Hein.
Oh, voilà. Très bon slogan. Petit placement de produit, voilà. Et alors, en fait, moi, sur les réseaux sociaux, parce que bah, vous le savez, hein, j'anime un petit peu les réseaux sociaux de la KNF, je vois beaucoup, beaucoup de messages de gens qui font « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Onyx, vous faites jouer des joueurs, les anciens, les vieux, qui sont là pour un an, laissez la place aux jeunes. » Et alors, moi, j'ai un peu du mal avec tout ça, j'avoue, parce que je pense qu'aujourd'hui, Mike Miller, il met les joueurs qui sont susceptibles de faire gagner l'équipe, parce que Mike Miller, il est intérimaire. Peut-être que si ça se passe bien, on pourra le prolonger. Bon, on verra tout ça, mais et il essaye de gagner des matchs avec l'effectif qu'il a. Et le côté, oui, en mettant les jeunes, on va les développer sur le terrain. Mais il faut que les jeunes, ils se fassent leur place, qu'ils gagnent leurs minutes. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit des Kevin Knox, de Dodson par moment, de qui d'autre, Mitchell Robinson, de Franck, bah, c'est pas suffisant pour dire, bah tiens, garçon, pile les clés, t'es titulaire. prends les minutes qui vont bien pour te faire tes stats, pour perdre des ballons, pour prendre des blowouts, et puis on va laisser les Morris, les Randle, tout ça sur le banc pour regarder les petits jeunes jouer. Moi, j'ai l'impression que la communauté attend un développement, un tanking numéro 2 cette saison, et que c'est clairement pas le scénario, le plan. Non, il faut qu'on gagne un peu plus de matchs que l'année dernière.
Fini le tanking, ouais. Ça sert à rien, on a vu que ça nous a pas rapporté, et sur les 4 jeunes que tu as cités, entre guillemets, il y a le cas Kevin Knox, dans notre dernier podcast, on disait qu'il était surprenant en bien et tout, il s'est effondré derrière.
Rocky Wall.
Ouais, enfin, là, c'est
ouais. Sophomore Wall.
Là, il est catastrophique. Et de tous les jeunes que tu as cités, je dirais que quand même s'il a des gros défauts, quoi que ce soit, Robinson reste le joueur qui, potentiellement, est le plus intéressant. En tout cas,
ouais. Dans le sens où là, il s'est un peu discipliné là sur les fautes subies. Il y a vraiment un effort à ce niveau-là, donc ça l'a. Bah, du coup, il a gagné quelques minutes au niveau du temps de jeu. Dans la rotation, le retrouver en deuxième rideau, bah écoute, moi, ça me pose pas plus de problème que ça.
Non, parce que Taj Gibson, il fait le taf. Hein. Alors tout après, c'est pas le plan du futur, Taj Gibson, mais bon, tu ouais, le fais démarrer parce que.
Match, mais derrière, il fait pas grand.
Oui, il a pas énormément de minutes de jeu, on est d'accord, mais voilà, il est vaillant.
Ouais, hein, derrière,
c'est un guerrier, Taj Gibson.
Il installe une énergie positive.
Oui.
Et puis d'une certaine façon, il évite que Mitchell.
Ait trop de fautes dès le départ.
Prenne des fautes d'entrée de jeu et se grille. Après, tu le vois plus. Quoi.
Et puis en plus, hier il y avait un match contre Cleveland et tout. J'ai fait gaffe à Taj. Il taffe bien au poste. Il a encore des moves intéressants. Et du coup, il fatigue quand même le pivot adverse dès le début. Après, il a pas 40 minutes dans les jambes, Gibson. Et du coup, après, quand Robinson rentre, c'est déjà un peu plus facile pour lui. Tu vois, le travail est fait. En plus, Robinson est quand même hyper énergique, hyper chiant à contrôler. Donc, pour moi, c'est une bonne surprise, Gibson. Hein. Je le pensais cramé. Bon, il va pas faire, comme je te dis, il va pas faire 40 minutes, mais il fait le taf et il le fait correctement.
Non, mais voilà, tu parlais de l'utilisation la judicieuse là, de Gibson. Gibson, quoi, c'est 16 minutes. Mitchell, il a quand même ses 22 minutes par match. Donc
ouais,
voilà.
Il a 10 minutes quand même pour s'exprimer. C'est pas comme si ces joueurs étaient benchés, qu'on ne voyait jamais. Alors oui, Alonso Trier, il est benché. Lui, je sais pas quel sera son avenir à court terme. Mais nos jeunes ont des minutes de jeu. C'est faux de dire oui, les jeunes ne jouent pas, ils ne peuvent pas se développer. Ils ont des minutes de jeu, ils ne sont pas titulaires, mais ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es titulaire. Hein, ce n'est pas comme ça que ça marche en NBA, en dehors de RG. Mais voilà, ils ont matière à s'exprimer en seconde unit, et ce n'est pas des gros mots, que d'être backup. Hein, donc, non, là, cette saison, on essaye d'avoir plus de résultats collectifs. C'est sûr que l'effectif, il risque d'être peut-être encore complètement différent la saison prochaine, parce qu'on est sur beaucoup de contrats courts. Mais c'est aussi au contact de joueurs expérimentés que les jeunes vont apprendre, quoi. Donc, on verra si, arrivé au mois de mars, il n'y a plus rien à jouer, après la trade deadline, ce qu'il en est. Mais voilà, les jeunes ont quand même matière à s'exprimer, quoi.
Mais tu penses qu'au mois de mars, on sera à 3 places des playoffs? Ouais, 3 victoires des players.
Ah, on n'est pas loin du spot 8. Non, je déconne. Non, j'ai jamais cru cette année. Non, je ne vais pas se mentir. Mais non, mais voilà, ça va dépendre de la dynamique. Si on enchaîne les défaites et aussi des mouvements, hein, on va peut-être venir dessus. Mais
c'est notre ami Fizel qui a pris une défaite lamentable. Nous disait oui, mais dans la conférence Est,
on est plus loin.
Encore possible. On est plus.
Non, mais possible. Ça, c'était scandaleux. C'était
sur un gros malentendu.
Ouais, ça, c'était honteux. C'était notre gueule. Non, mais clairement, là, c'était.
Voilà. C'était catastrophique, ça. Un beau tour de magie, quoi. Tu te fais croire que l'équipe elle est compétitive alors que pas du tout.
Bon, en tout cas, moi je voulais également parler de, on l'a évoqué tout à l'heure, mais de Marcus Morris. Comme ça nous fera un peu la transition avec la fameuse trade deadline et les rumeurs. Marcus Morris, votre avis sur le sujet? Alors Juju, tu le targuais, tu le taquinais un petit peu là-dessus, le fait qu'il soit un peu croqueur, mais quand même ce joueur
Je le taquine parce que moi j'aime beaucoup ce joueur. Et sincèrement, moi, je vais vous donner tout de suite mon point de vue. J'entends des gens, même sur les réseaux, que ce soit français ou américain, qui n'arrêtent pas de me monter des trades avec Marcus Morris. Moi, je ne le trade pas. Pour un tour de draft, 20e position, je ne sais pas, au deuxième tour, je ne le trade pas. Moi, je me dis, ça sert à quoi de le trader? Ça ne sert à rien aujourd'hui. Après, bien sûr, on te propose un super joueur, mais ça ne sera pas le cas. Donc, de toute façon, lui, il est en contrat court. Donc, tu ne le trades pas. Tu le gardes. il a une mentalité. C'est un des rares qui dit, moi, je suis content d'être à New York, ça me plaît, j'aime cette ambiance. Et il le prouve sur le terrain, il ne se fait pas dessus, il répond présent, il met des shoots importants. Alors, bien sûr, il croque, hein, c'est clair. Mais franchement, j'aime son attitude, j'aime son jeu, j'aime sa mentalité. C'est un battant, il ne baisse pas la tête. Et même, il y a des matchs où, qu'on a perdu, mais tu te retrouves à des moins 15, des moins 18, et puis Maurice, il prend feu, et puis tu n'es plus qu'à moins 4, et tu as encore de l'espoir, parce que le mec, il rameute les troupes. Donc, moi, franchement, aujourd'hui, mon point de vue, c'est que je ne le traite pas. Je garde, et clairement, même en fin de saison, après, il faut voir ce que tu as à la Free Agency, mais je serais même pour le garder. Quoi. C'est tout à fait le genre de joueur qui m'ont fait kiffer les Knicks quand j'étais plus jeune, et j'aime bien sa mentalité.
Ouais, bah, il a un côté un peu bagarreur. Bagarreur et un chien qui lâche rien, donc ça c'est intéressant. Après c'est vrai que c'est un peu risqué parce que c'est un contrat d'un an, il est venu à New York pour signer plus cher parce qu'il était un peu convoité par les Spurs avant. Il a une exposition, il a une exposition médiatique et voilà une tribune avec le Garden et les Knicks qu'il n'aura pas ailleurs. Il a quand même joué dans des équipes qui étaient plutôt sympas, hein. Quand tu joues aux Celtics, c'est des équipes compétitives. Voilà, quand tu viens aux Knicks, tu rétrogrades un petit peu en termes d'ambition, d'ambition sur la saison. Mais par contre, il a une exposition, il a des stats, il fait la carrière de sa vie pour l'instant. La saison de sa carrière pour l'instant.
19 points le meilleur par match. 19
ouais,
points,
ouais. Beaucoup, ouais. Hein. Et puis un rôle de leader, il a sorti
à 37-38. Il y a 45%, je crois, à 3 points. Et ça y est. Des trucs de dingue quand même.
Et en plus là hier soir donc là, durant le match contre les Cavs, il y a la MSG là qui nous faisait tourner une petite stat, notamment sur les nombres de 3 points convertis par match. Et Marcus Morris met plus de 2,5 3 points par match. Et niveau Knicks, ben c'est on rentre dans la comparaison avec des John Starks. On rentre dans la comparaison avec des J.R. Smith, enfin des vrais snipers que l'on a pu connaître dans l'effectif. Et voilà, donc non, ça mesure un peu l'impact que peut avoir ce joueur dans l'attitude. Il me rappelle des combos de pas mal de joueurs. Bah, je le vois jouer, effectivement, il y a une petite pensée à du Rachid Wallace mélangé avec du Carmelo Anthony, mélangé avec... Enfin bon, bref, dans l'attitude, moi je le trouve, et dans l'impact sur l'équipe, je le trouve vraiment essentiel. C'est le rayon de soleil vraiment dans l'effectif.
Et clairement, il était absent 2 ou 3 matchs là, il n'y a pas longtemps. Et franchement,
ça se ressent
et ça saoulait de regarder le match, sincèrement.
Exactement.
Il n'y a pas ce petit grain de folie à un moment donné, il va peut-être prendre 3-4 shoots, mais il va faire ça, il va partir au lay-up, il va avoir un one. Il y a ce petit côté à un moment donné en plus. Ouais. Et franchement,
après,
bien
dès qu'il a le ballon, par contre, tu sais qu'il part pour attaquer le panier. Alors, j'étais quand même déçu sur la fin de match. C'était quel match là, contre les Sixers. Il nous fout un panier clutch, et puis après, il y a quoi, il y a 20 secondes de jeu, et on a la balle de match, quoi. Une balle pour gagner le match et il s'enferme et il file la patate chaude à Randle sur la ligne. Enfin bon, là on s'est complètement craqué. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est un joueur qui a pas peur de prendre ses responsabilités. Il est là pour apporter du scoring. En défense, voilà, il est correct. Mais voilà, il est très précieux aujourd'hui dans l'état de l'effectif des Knicks. Après, je comprends aussi les gens qui se disent ouais, faut le trader parce que il a une valeur bankable, quoi. C'est un contrat expirant. Tu te dis que
pour récupérer quoi? On sait pas drafter. On va récupérer un fin de premier tour pour récupérer n'importe quoi. Nous, c'est pas notre jeu.
Si c'est juste pour récupérer des tours de draft, moi, je vois pas l'intérêt non plus.
Et au-delà de ça, c'est si tu fais venir quelqu'un, quels sont les joueurs que tu es susceptible de proposer pour l'entourer dans l'effectif actuel? Donc, il y a ça aussi.
Là, tu perds un joueur de 19 points avec un gros mental et un impact sur le collectif énorme. En plus, visiblement, dans le vestiaire, il parle, il a l'air d'être assez présent avec les jeunes. Avec les jeunes, et en plus, au début de saison, moi, c'est perso, j'avais peur qu'il soit un petit peu ingérable. C'est
pas un bon bah, retardement.
Voilà,
quoi.
Qui pète. Ouais, voilà. Et en fait, pas du tout. Il a pris son rôle très au sérieux. En tout cas, ce qui en sort. Et sur le terrain, il répond et il montre le bon exemple. Il n'a pas pété. Au contraire d'un Portis, il n'a pas pété des câbles.
Sur le premier match de saison, de pré-saison contre Washington, quand il éclate le ballon là sur.
Ouais, voilà.
Justin Anderson, je sais plus quoi.
En pré-saison. Donc on s'en fout. Là, il est, ouais, il est très bien.
Ça a régalé là à ce moment-là.
Non, mais il y a ça. Il y a aussi le pétage de câbles contre les Clips où on avait cru pendant un moment pouvoir faire le hold-up et. Et là, tu as le combo Porcis, Maurice, qui enchaîne les fautes techniques dans le troisième.
Clairement, il y a un fou trop dans l'équipe et c'est pas Maurice.
Non, c'est pas Maurice. D'ailleurs, c'est plus Porcis qui nous fait le back-to-back de la manchette. Un mec qui se prend 25 000, une expulsion sur un match et le coup d'après, il refait ça. Tu fais, mais t'as pas compris, mec. Ah là là. Mais non, mais voilà, Maurice, il annonce, il dit vouloir rester. On verra bien cet été. Parce que, quand même, c'est un joueur qui est convoité. Tu te dis que chez un Contenders, il peut apporter et on peut comprendre l'intérêt de certaines franchises pour lui. Après, est-ce que c'est l'intérêt des Knicks de le faire partir s'il veut rester, pourquoi pas? Est-ce que c'est un joueur sur lequel on va reconstruire et tout? Et c'est le joueur du futur? Pas forcément, mais en attendant, il fait le boulot, il apporte ses points et il apporte l'énergie et du leadership. Quoi.
Et en tout cas, moi, je vais préciser quelque chose de capital. Clairement, si je peux, je prends son maillot Omega Trip. Hein, voilà. Et pour moi, c'est important de le signaler.
Il est déjà sold out, le maillot. Il est déjà sold out.
Annoncé compte double, voire triple même. Donc effectivement, sur Maurice, on parlait des contenders. Ouais, il y a les Sixers notamment qui sont dessus, les Clippers qui sont dessus. Bon, bref, il y a vraiment du monde au balcon.
Les Sixers, je pense que ça peut être un candidat dangereux pour essayer de le récupérer parce qu'accessoirement, le garçon, il est de Philadelphie. Quoi. Et quand il a annoncé venir aux Knicks plutôt qu'aux Spurs, il n'a pas dit que c'était pour l'argent, il a dit que c'était pour se rapprocher de sa famille. Donc, la famille étant à Philadelphie, petit contender qui a du mal à trouver son rythme aussi. Bon, mais il faut voir, pour récupérer quoi, c'est pas l'intérêt des Knicks de le faire partir. Quoi.
Il sera backup de Toby. Ah, bah si, ils peuvent nous refiler, comme il s'appelle, Trevor.
Trop drôle. Le Iverson du pauvre. Non, le Iverson du pauvre, il est très bien, il fait des filles.
Il joue même pas là-bas.
Non. Kylo Quinn, récupérer Kylo Quinn.
Voilà,
je pense qu'il y en a qui aimeraient bien, mais voilà, non, gardons Maurice.
C'était pas un mauvais bougre Kylo Quinn, mais franchement, Maurice, c'est une autre classe, c'est autre chose. Et franchement, aujourd'hui, tu peux pas le trade pour rien, quoi. Même pour un second tour, même pour un premier tour, un fin de premier tour. On en ferait quoi? Nous, on en ferait rien. Donc,
Moi, ça me rassure parce que les Knicks, le front office des Knicks, qui est tant décrié, tant trollé, ouais, les Knicks, ils font toujours des mauvais choix, nanana. Bah, finalement, ce qui est sorti de façon plus ou moins officielle au niveau de la com des Knicks, c'est de dire non, mais nous, les gars, oubliez-nous, on n'est pas là pour trader nos assets pour avoir des tours de draft et autres. Si on veut des joueurs, si on veut récupérer des joueurs, c'est des joueurs d'impact qui ont un potentiel de titulaire, quoi. Donc, voilà, j'ai l'impression que les affaires sont plus difficiles à faire avec les Knicks cette saison que les saisons précédentes. On ne va pas se déshabiller pour juste les beaux yeux de Sixers ou des Lakers et récupérer un pauvre tour de draft. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se dire.
J'espère après, que ce soir, on ne va pas ouvrir les réseaux sociaux et boum.
La wash bombe. Boum.
Ah ouais, voilà.
Parce que des rumeurs, ça, on en a eu récemment.
Et en parlant de rumeurs, Randall, vous en faites quoi?
Randall, moi, pour moi, on le garde hein, pour le moment, tu vois. Donc après, monnaie d'échange, alors là, ce serait pour vraiment un top, top, top player. Mais,
parce qu'il a 4 ans, lui. Enfin, il a 3 ans et demi maintenant.
3 ans, il a 3 ans. Ouais.
Plus 1,
hein. Ah oui, je crois que c'est un 2 plus 1. Ouais, t'as raison. Il me semble que c'est un 2 plus 1. Mais voilà, donc effectivement, alors, il y en a beaucoup qui veulent déjà le lâcher, mais... Mais en attendant,
ça sera une erreur.
Exactement.
C'est un peu la grosse recrue, hein, entre guillemets, sur la free agency de cet été, enfin de l'été passé. Ça sera un aveu d'échec, quoi, de dire il est à peine arrivé que c'est bon.
Et puis il fait le taf quand on était tous les trois ensemble et tous ceux qui étaient avec nous au Canon, mais contre Miami, franchement, tu le vois, enfin voilà.
Ouais, il a été l'équipe à gagner, bien sûr.
Et même en général, il fait le taf, quoi. Il met ses 19 points, c'est pratiquement 10 rebonds. Quand il est pas sur le terrain, quand même, bah il y a un manque. Hein. Quand il était pas là, parce que bon, sa grand-mère est décédée pendant les deux matchs, clairement, tu sens que l'équipe est vraiment moins forte. Sincèrement, quand il n'y a pas ni Maurice ni Randle, l'équipe est moins forte. C'est pas le cas pour tous les autres joueurs.
Ces deux joueurs-là ne sont pas des franchise players, mais aujourd'hui, dans l'effectif actuel, c'est les meilleurs joueurs qu'on a, quoi. Donc, s'en passer est difficile. Randle, non, laissons encore un peu du temps, de la chance, pour voir si
et on peut faire quelque chose avec lui. Si on est en mesure de l'accompagner l'année c'est prochaine avec un joueur un cran au-dessus. Quoi. Donc,
c'est un lieutenant, c'est un bon lieutenant, je pense. C'est un stretch fort, hein, je veux dire, il a un peu de shoot à point. Donc en fonction de qui on met dans la raquette, ça peut avoir une très bonne combinaison. Donc,
parce qu'il y avait la rumeur Drummond et
ah, oui, c'est ça.
J'ai regardé, du coup j'ai regardé un peu plus les matchs des Pistons, j'en ai regardé 2-3 et j'ai vraiment peur que Drummond, les mecs soient un peu pas cramés, mais qu'ils soient quand même voilà dans une phase descendante.
Après il est peut-être démotivé aussi, il sait peut-être que voilà d'ici février.
Physiquement, il n'est pas affûté. Ouais. Je sais pas si tu
vois. Oh, il a toujours eu un morphotype de gros nounours quand même.
Mais là,
quand il était tout jeune, enfin sur ses premières saisons, mais il a vite pris de la masse et puis. Pour c'est moi, un pivot un peu à l'ancienne quoi.
Ce serait typiquement le contrat toxique pour. Enfin, là, il est en fin de contrat en fin de saison justement, mais c'est le genre de gars. Tu transfères en mi-saison, tu lui donnes la blinde en fin de saison, c'est le contrat toxique. D'un mec qui vivait sur ses doubles-doubles énormes de moyenne et qui va dégringoler. Un peu comme DeAndre Jordan aujourd'hui, qui n'est plus du tout le joueur qu'il a été.
Après, les gens font. Enfin, quand on parle des rumeurs autour d'Enix, hein, on entend tout et généralement les échanges ou les signatures qui se font, c'est pas ce qu'on entend pas, veut dire dans les rumeurs. Donc. Mais les gens ont aussi tendance un peu à cracher sur Dede Drummond, c'est pas non plus le dernier venu. C'est pas le tout meilleur pivot de la ligue, mais c'est pas loin, pas les derniers dans les derniers non plus quoi. Donc ça pourrait apporter une présence réelle défensive dans la raquette parce qu'on s'est fait quand même marcher dessus contre Montrezl Harrell par les Clippers. Contre les Lakers, c'était pas beaucoup mieux. Donc on voit que notre raquette elle est faible. Hein. Mitchell Robinson, il est bien gentil. Aujourd'hui, il ne fait pas le poids face à des pivots de métier. Donc oui, on peut être patient, voir le potentiel, attendre son développement. Moi, je ne suis pas aussi rassuré que ça sur l'avenir de Mitchell Robinson. Il a encore beaucoup de travail à accomplir pour avoir un rôle de titulaire à proprement parler, d'être un vrai défenseur, un vrai rim protecteur. Et je me dis que voilà, un Dede Drummond, ok, certains vont dire ça va freiner son développement, mais il en est bien loin aujourd'hui d'avoir cette présence-là dans la raquette. Quoi.
Et puis moi aussi, il y a autre chose pour aller un petit peu plus loin. C'est ok, on parle de Drummond, mais il y a aussi ce que veulent concrètement Détroit. Donc Détroit, clairement, pour Drummond, les gars cherchent vraiment du choix de draft.
Randle et Frankie.
Il cherche essentiellement du choix de draft. Donc, nous, c'est quoi ? Est-ce qu'on met par terre nos tours de draft qu'on a réussi à récupérer dans le transfert de Porzingis, à assainir également les contrats, tout ce qu'on avait lâché pour faire venir Melo, même Bargnani aussi, on peut en parler. Enfin, bon, bref. Et tout cet effort-là pour récupérer de la flexibilité, récupérer des tours de draft, est-ce qu'on doit sacrifier ça pour André Drummond ?
Donc, ouais. Le front office d'Enix a l'air de dire non, on se donne rendez-vous les prochains si Dede Drummond veut venir. Hein. Donc, limite, ça c'est rassurant, ça veut dire qu'on apprend de nos erreurs. Déjà, Drummond n'a pas annoncé vouloir venir à New York coûte que coûte. Les Pistons veulent s'en séparer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tourner la page, qu'ils veulent récupérer quelque chose en échange. Après, voilà, on parle d'une fin de saison, sans garantie que le gars y re-signe, tu te déshabilles pas de tous tes assets.
Ah, c'est ça, parce que là, on parle d'assets, là, la franchise, elle a quoi ? Elle a 7 choix de draft sur les deux prochaines saisons, dont 3 au premier tour. Donc,
est-ce qu'il faut les garder ? Je suis pas persuadé non plus, parce que
les
jeunes, projet jeune à New York, franchement, moi, c'est de la rigolade, on le verra jamais. Quoi.
Au-delà de la draft, au-delà de la free agency, on a quand même une carte à jouer au niveau des trades, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se précipiter saison. Quoi.
Pas de précipitation là sur février. Si une occasion se présente, pourquoi pas. Moi, sur le cas de Drummond, je me disais why not, mais pas à n'importe quel prix. Quoi. Prix, si c'est pour lâcher du Dennis Smith plus Ellington plus un package qui match en termes de tarifs et pourquoi pas un tour de draft, mais pas à n'importe quel prix et aussi avec un peu de garantie vis-à-vis de la suite par rapport à ce joueur. Donc, ça, je pense que ces conditions ne sont pas réunies. Il voulait plutôt récupérer Randle. Non.
Non, clairement non. C'est pas une bonne idée. De toute façon, là, aujourd'hui, sur la trade deadline, qu'est-ce que peut faire New York ? Quel est l'intérêt de New York ? Et quels sont les joueurs dont les autres équipes ont envie et que nous, on a envie de se débarrasser ?
Les joueurs à potentiel, t'as Ntilikina, t'as Knox, t'as Robinson. T'as du Dennis Smith Jr.
Dennis Smith Jr., voilà, la Fini, Trailleur également. Ellington, c'est pareil. Voilà, on a des assets, on a des jeunes. À un moment, il va falloir soit patienter plusieurs saisons pour qu'ils se développent et construire autour d'eux l'avenir d'Enix. Moi, j'en doute fortement. Soit, ça sert de monnaie d'échange pour récupérer des joueurs dont l'aventure est finie dans les équipes actuelles. Quoi. Mais c'est difficile d'identifier ces joueurs-là. Quoi.
A priori, DSG garde encore une petite cote, visiblement, parce que j'avais vu Minnesota et je crois qu'il y a une autre équipe aussi, mais je ne me rappelle plus, qui était plus ou moins chaud, pour récupérer
ce joueur.
Après, contre quoi, ça, je ne sais pas. Mais voilà.
Après, tu traites Dennis Smith Jr., il ne joue pas aujourd'hui. Quoi.
Nous, c'est clairement Dennis Smith Jr., c'est clairement le joueur qu'il faut évacuer tout de suite. Mmh. C'est lui, clairement. Même contre un tour de draft ou quoi que ce soit. Pourquoi pas être... parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il ne joue pas. C'est un échec total. Donc, si quelqu'un a envie de le relancer, super.
Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Après, Franck...
Franck, on a pas de backup, s'il part.
Certaines valeurs marchandes, certaines équipes croient en lui. Détroit, à un moment, elle l'avait un peu scouté, avait des vues sur Franck. Ça pouvait paraître crédible vis-à-vis du transfert avec des Drummond, mais bon, pour voir le package. Donc, je sais pas. En tout cas, l'effectif actuel, il est un peu bancal. Les contrats courts, on va pas signer tout le monde pour un an. Il y a plein de joueurs qui vont pas vouloir recontinuer en l'état. Il y a des questions qui se posent, mais on va scruter ça, les mouvements d'ici la trade deadline. On est impatient de voir tout ça quand même.
Ouais, mais j'ai pas la sensation qu'il va y avoir un tremblement. Je sais pas.
On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus, quoi.
Je pense que ça va être des petits ajustements, mais il n'y aura rien. Au maximum, ça sera un jour de la valeur de Bullock. Et encore, je dis bien au maximum.
Ouais. On risque d'être déçu, quoi, en fait, quoi. Trade deadline. Pour ceux qui attendent des choses, ça risque d'être un peu bof.
Non, mais après, évidemment, on est à New York. Les rumeurs vont circuler. Ça, de toute façon, on sait ce que c'est. Hein. On connaît bien la franchise. Ça va beaucoup jaser. Mais moi, j'ai pas le sentiment qu'il va y avoir grosse révolution. Effectivement, ajustement possible. Mais ça va pas être la course à. Attention, parce qu'il y a parallèlement, il y a le front office qui annonce quand même que s'ils font un mouvement, donc on est vraiment. Dans le conditionnel, si un mouvement, ce serait pour un, pas un franchise player, mais un joueur titulaire.
Pour moi, c'est de la com. C'est juste histoire de dire on n'a pas bougé parce qu'il n'y avait rien sur le marché. Ouais. Tu vois, c'est juste de la com. Parce qu'en fait, ils savent très bien un titulaire. Ça veut dire tu as RG en poste 2, donc je ne pense pas qu'ils cherchent un poste 2. Ils ne vont pas chercher un joueur à la place de Randle. Donc ça veut dire quoi? Un poste 1 ou 5, on est d'accord? Ouais. Parce que le 3, bon, t'as Maurice, c'est bon, en gros, un poste 1 ou un poste 5. Donc, un poste 1 titulaire ou un poste 5 titulaire, clairement, sur le marché, il n'y a pas grand-chose.
D'Angelo Russell, Warrior.
Ça coûte cher.
Qu'est-ce qu'on va leur proposer, quoi?
Qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Et là, ça va te coûter une blinde.
Ça coûte cher, ouais.
Pour un joueur qui est bon, mais je sais pas. Tu vois, c'est pas moi, je mets pas la blinde sur lui, quoi.
Kyrie Irving, honnête, qui fait des vagues avec ses coups de com.
Peut-être que ses coéquipiers voudraient nous filer, mais non, clairement,
contre une boîte de donuts. Mais non, mais voilà, ouais, c'est ça. Ça semble, voilà. Bon, je pense qu'on n'aura pas énormément de possibilités. Et un autre élément qui, moi, me fait pressentir que ça va pas énormément bouger d'ici le 6 février, c'est je pense que le front office est un petit peu aussi. Plus ou moins sur la sellette, et faites pas de mouvement, les gars. Si on vous remplace cet été, l'idée, c'est pas d'avoir des contrats un peu foireux et de plus savoir s'en dépêtrer. Donc, touchez à rien, on verra ça cet été, quoi. Et les mouvements pourraient avoir lieu déjà vis-à-vis du front office. Alors, il y avait la rumeur Masai Ujiri, donc on va pas recruter des joueurs, on va recruter du front. Mais par contre, il faut lâcher des tours de draft. Alors ça,
est-ce qu'on va recruter également un coach aussi, tu vois là...
Tout à fait, ouais. Mais en ça, la situation de Mike Miller, elle est aussi instable. Et bon, après, il prend son rôle d'intérimaire, je pense, comme il faut.
À mon avis, il va finir la saison, lui.
Et après, soit il est remercié, soit il est prolongé en fonction des mouvements du front office. Quoi, mais...
En fonction de ce qu'il fait aussi, parce que si bon, il nous enchaîne... Là, on est à quoi ? On est à 12 victoires ? Bon, il faudrait qu'il...
Vas-y, tu peux rêver, tu peux rêver. On sort du Martin Luther King Day, donc vas-y, tu peux rêver.
S'il nous fait 20 victoires sur les 40 matchs qui restent...
Allez, on accroche les playoffs. Hein, on est spot 8 et on va jusqu'en finale. Quoi. On tape les Bucks et tout.
Mais je pense que Miller... Ils vont le remplacer, mais...
On lui laisse sa chance sur la fin de saison, et en fonction de qui... Est-ce qu'il y a un nouveau GM ? Est-ce qu'il y a un nouveau président ? Si oui, il construira son équipe, son coaching staff, et voilà, quoi. On devra avoir un tour de draft peut-être pas trop mal, et puis Marcus Morris, on le prolonge, oui, non. Bon, après, la free agency, il y aura moins de choses. Hein, cet été.
C'est pas génial, hein, de mémoire.
Après,
c'est au niveau des transferts. Voilà, c'est cet été, quels sont les. Alors, on n'est pas encore sur la trade deadline. On va voir ce qui va se passer d'ici là, bien évidemment. Mais je pense que la carte à jouer, elle est vraiment au niveau des trades et au niveau de la draft, concernant les Knicks.
Voilà. Mais globalement, hein, on le voit quand on discute ensemble, on n'attend pas grand-chose de la trade deadline. Quoi. On attend plutôt quelques ajustements mineurs, récupérer un tour de draft.
Et puis surtout confirmer Marcus Morris. Hein,
oui, attendez, et puis on parle aussi du futur des Knicks. On a évincé, bon, même s'il est blessé, RG, pas le futur, c'est quoi ? C'est compliqué. Parce qu'il y a quand même RG qui a été annoncé très très fort, qui est fort. Est-ce que c'est un vrai franchise ?
Oui, s'il met son bandeau.
J'en suis pas encore sûr. Après, il est jeune, il a 19 ans.
Vu ses stats et ce qu'il produit, alors effectivement, oui, il y a du déchet, mais moi, j'ai aucun doute sur l'impact que peut avoir RJ Barrett sur la franchise, hein, franchement.
RJ qui a pris 2 ans d'expérience. Bon, c'est un an ou deux d'expérience, que tu as un joueur type Randall qui est à côté de lui. Déjà, tu as quand même deux bons joueurs. Enfin, voilà, si RJ qui passe, parce que là, il a 14, s'il finit la saison à 15 points, on sera content. Et s'il step up, on va dire, dans les 1 an ou 2, à 20, 22, 23, 24 points de moyenne, avec un jeu où il est impactant, tu mets un bon, t'as déjà son lieutenant, un ou deux joueurs, enfin tu vois, ça peut être aussi pas forcément le gros transfert à chercher, et peut-être moins de joueurs à chercher pour le coup.
Mmh. Ouais. Mais après, tu peux aussi bien l'entourer, tu lui mets dans le backcourt un petit LaMelo Ball. Je charrie, mais oui, c'est un joueur sur lequel on peut croire. Après, quel est son plafond, tu vois ?
Bon, écoute, moi, en tout cas, la polyvalence dont il fait preuve, la mentalité dont il fait preuve, pour moi, elle est vraiment... Je trouve qu'il part sur des bases assez solides. Alors, il y a le coup de mou, oui. Il y a les minutes aussi, hein, parce qu'au début...
Il a eu du temps de jeu.
On l'a même un peu trop exposé. Hein, donc là, on réduit un peu son temps de jeu. On gère un peu ses efforts aussi. Il progresse sur certains aspects, en dépit du fait qu'il ait moins de temps de jeu, notamment c'est sur la ligne, hein, des lancers francs. Bon, il pouvait que progresser, le type, mais bon. Mais voilà, je veux dire, après, c'est au niveau de l'intelligence de jeu aussi, un peu moins de perte de balles, parce qu'il y en avait beaucoup quand même. Au niveau de la décision de ses prises de décision au niveau des shoots, malgré tout, voilà, à 3 points, ça reste du 32%, donc c'est pas quelque chose de formidable, mais il arrive à planter, malgré tout. Donc, du temps, de la passion.
Il a amélioré son pourcentage aussi au lancer. Il était catastrophique en début de saison, et de mois après mois,
il a
son pourcentage, donc ça montre que le garçon, il travaille quand même, et peut progresser.
Il est comparé à un Jamorant et tout, mais il ne faut pas oublier qu'être rookie... Non, mais être rookie à New York, c'est pas la même chose qu'être rookie à Memphis, tu vois. Ok, Jamorant est très fort, il est explosif et tout, il réalise une super saison, il sera certainement rookie de l'année, mais être rookie à New York, avec la pression que tu as, où il n'y a rien d'autre, une équipe compliquée, c'est pas la même pression qu'à Memphis. Jamorant est bourré de talent. Mais je pense qu'RG, parce que les derniers temps, il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire oui, ça y est.
À douter de lui.
Ouais, à douter de lui. Clairement, genre, bon, plus un bon petit joueur, mais sans plus. Alors que quand il a fait ses deux premiers matchs, c'était LeBron. Donc tu vois, il y a deux poids deux mesures. Je pense qu'RJ reste quand même un joueur. Ouais, ça reste quand même un bon joueur. On a quand même avec lui un potentiel très bon arrière, quoi.
Oui. Non, mais voilà. Et puis il est physique, il est NBA ready, donc. Voilà, faut lui laisser du temps.
Moi, franchement, s'il n'est pas rookie de l'année, je vais m'en remettre. Hein, moi. Tant qu'il explose après, sur la saison d'après, il sera
MVP la saison d'après, donc du coup, ça ira. Ça ira.
J'attends pas à ce qu'il pète les compteurs. Alors, il aurait pété les compteurs dès la première saison. Oui, ça aurait été une satisfaction, ça aurait été vraiment quelque chose de positif. Mais voilà, je veux dire, je veux pas non plus... me nourrir de frustration vu du joueur et je pense qu'il va nous apporter ce gars-là et s'il est bien entouré il y a de très fortes chances qu'il nous le rende bien, enfin du moins je l'espère en tout cas. Bon bah messieurs, bah, je pense qu'on a fait le petit point, hein, sur la trade deadline. Maintenant juste parler un petit peu de l'actu. Moi je voulais un peu revenir là sur les événements KNF et notamment la dernière viewing contre Miami, vous étiez tous les deux présents. Je voulais vraiment remercier tous les membres et leurs invités qui sont venus à cet événement. Il y avait le contexte. Tu peux un peu nous rappeler le contexte là, Joanny.
Il y a un mouvement social. Je pense que vous êtes au courant. Il y a des difficultés au niveau des transports dans l'Île-de-France. Donc, on a quand même des gens qui sont motivés venir retrouver la KNF pour passer un bon moment. Et c'était dimanche, il y a 15 jours, contre le Miami Heat. Franchement, l'affiche, elle faisait un peu peur. Mais finalement, on a eu un super match. On a pu vibrer et on a fini avec une petite victoire. Donc, c'est d'autant plus plaisant. Donc, merci à tous les membres qui se sont déplacés pour cette première viewing 2020. Il va y en avoir d'autres quelques semaines, quelques mois. Bon, d'ici là, on va faire un petit tour à New York. Le fameux Mecca Trip, il arrive fin voilà. février. On espère pouvoir supporter les Knicks dans la victoire. Vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, on partagera des petites infos inside, on devrait passer un bon petit moment. Donc, mais voilà, on remercie encore les membres qui nous font confiance, qui sont présents sur les événements, même avec des conditions un petit peu compliquées sur Paris ces derniers temps.
Donc un grand merci à tous, on vous tiendra évidemment informés sur les prochains événements. Donc là tu parlais du Mecca Trip, il y a aussi d'autres événements courant avril qui devraient tomber. On vous réserve la surprise, mais on reste actif et en tout cas, on vous remercie encore tous et toutes pour votre mobilisation. Donc, c'est vous qui nous donnez justement la force de pouvoir continuer à enchaîner. Et on prend vraiment plaisir déjà à vous accueillir, plaisir de pouvoir partager avec vous sur l'actu des Knicks. Hein, on a toujours des choses à raconter, bien évidemment. Le podcast en est la preuve. Et voilà. Et puis, on espère vous voir de plus en plus nombreux également sur nos prochains événements. Un petit mot de la fin, on va commencer par Juju. Petit mot de la fin pour toi.
Ça a fait plaisir de vous retrouver. On espère que les Knicks vont continuer à nous régaler tout au long de la saison. On lâche rien, comme tu dis si bien dans l'intro. Et puis on se Knicks, on voit le Knicks, voilà.
Voilà. Et pas de bêtises à la trade deadline. Hein. On fait pas les foufous, on lâche pas n'importe quoi pour récupérer n'importe qui.
Des Marcus Cousins, je crois qu'il est sur le marché. Hein.
Ouais, marché des qui, des quoi? Des pièces détachées? Non, mais voilà, donc on va suivre cette trade deadline avec attention et puis on verra quels sont les mouvements. On reviendra sûrement faire un petit épisode pour débriefer tout ça, oui. S'il y a eu des grosses signatures ou au contraire peu de mouvements. Et puis d'ici là, essayer de récupérer quelques petites victoires. On a tapé deux fois les Mavericks, ça faisait plaisir. Là, il y a un match prochain qui arrive contre les Nets. Moi, j'aimerais bien avoir une petite victoire contre les Nets.
Ah, si, j'ai un petit truc perso qui n'est pas à voir avec les Knicks, mais qui est à voir au retour de Carmelo Anthony quand même du côté de Portland. Oui. Je sais qu'il a beaucoup de hitters, mais moi, c'est un joueur que j'ai adoré aux Knicks et qui m'a quand même régalé. Et ça fait toujours plaisir de le voir. Et voilà, c'est
tout. Ah, les haters sont toujours là, les groupies sont toujours là. Melo est toujours là, finalement.
Effectivement. Après on aura un calendrier peut-être un peu plus clément sur le mois de février. Donc oui, moi j'espère avoir quand même quelques victoires, avoir quand même une équipe, parce que j'ai senti les frétillements là depuis, on va dire, post post-départ Fizdale avec quelques victoires significatives, même si elles sont peu nombreuses. Mais voilà, une équipe de nouveau agréable à voir jouer, qu'on prend plaisir à regarder. Et surtout qu'on garde notre flexibilité et notre pantalon accessoirement post-trade deadline. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Non, pas de coup fait dans la précipitation, pas de coup désespéré.
Après, si Giannis veut venir, Randle, je veux bien.
Ouais, on peut s'arranger.
Oui. Évidemment.
Il est à Paris en ce moment, où il arrive à Paris, donc. Moi, je devrais m'infiltrer rapidement là sur le NBA Global Game. S'il y a moyen de lui passer un petit contrat Knicks, je vais essayer de faire ça. Quoi. Ou au pire, une adhésion à l'association. On va voir.
Voilà. Et puis, à défaut de porter le jersey des Knicks, le t-shirt de l'asso, voilà. Toujours ça de gagné. Hein,
les petits placements de produits, c'est pas gagné. Hein. Je parle pas
de ça. Tu leur amènes un bon grec de Saint-Mich, il va être aux anges.
Ok, messieurs, bon, en tout cas, moi, je vous remercie. Je tenais à vous remercier. Et également, un grand merci à tous et à toutes pour votre écoute, pour votre soutien également. On a eu beaucoup de retours positifs et beaucoup d'attentes sur ce nouvel épisode. Et je tenais vraiment à souligner cette phrase. Nix un jour, Nix toujours. On est bien évidemment ensemble et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain podcast. Julien, merci à toi. Passe une bonne fin de journée ou de soirée.
Merci à vous. Bisous, bisous.
Et bonsoir à toi, Johanny.
Ouais, pas de bisous aussi, hein, tant qu'à faire. Merci voilà. À vous et à très bientôt pour le prochain épisode.
On vous embrasse fort et à très bientôt. Au revoir. I always will be a Nick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey!